Bonjour, ravi de vous retrouver pour le magazine du week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h50 pour discuter de l'actualité ici et dans le monde avec nos invités. Bienvenue. L'Inde peut-elle remplacer la Chine dans le cœur des pays occidentaux alors qu'ils reprochent à Pékin ses responsabilités dans la crise liée au coronavirus? Alors que les relations sino-américaines sont mises à l'épreuve dans une guerre commerciale, l'Inde fait figure de nouvel allié, fut-elle dirigée par Narendra Modi? On en parlera avec nos invités aux alentours de 13h20. Pour commencer, on les appelle désormais la génération Covid, ces jeunes que le coronavirus a certes relativement épargnés du point de vue de leur santé, mais dont il a freiné, bouleversé, si ce n'est saboté, leur entrée, leur début sur le marché du travail. Entre les CDD ou les missions d'intérim non renouvelées, voire interrompues, les périodes d'essai qui ne se transforment en rien, les stages annulés, les entretiens d'embauche reportés, des milliers de jeunes ont dû chercher des plans B dans l'urgence dès la fin du confinement, secouer tous les arbres déjà dépouillés par les premiers venus, parfois sans en obtenir le moindre fruit, comme cet étudiant en école de management rencontré par la petite équipe du magazine du week-end.
Moi c'est Kader, donc j'ai 22 ans, je les ai fêtés en décembre 2019. Je suis actuellement en année de césure, en deuxième partie d'année de césure, au sein de l'EM Normandie. Ça faisait 112 jours que je recherchais un contrat, très exactement. J'ai fait un suivi sur Excel de toutes mes candidatures. Donc j'ai envoyé 722 candidatures. C'est un chiffre qui peut faire peur, mais c'est un chiffre qui montre la réalité des choses. Au niveau de mes refus, j'en ai reçu aux dernières nouvelles 345, ce qui représente 48% par rapport aux candidatures envoyées, et donc seulement 13 entretiens. C'est des chiffres alarmants, mais qui sont réalistes et qui reflètent la réalité des choses.
722 candidatures, 345 refus et 13 entretiens. Les recettes présentées cette semaine par le gouvernement pour favoriser l'emploi des jeunes seront-elles plus fructueuses qu'elles ne l'ont été dans le passé? 6,5 milliards d'euros y seront consacrés sur 2 ans. On en discute avec nos 3 invités. Bonjour Thibaut Guiluy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez été nommé en mars haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises auprès de la ministre du Travail, qui est désormais Elisabeth Borne. Vous présidiez jusque-là le groupe ARES, premier acteur, peut-on lire sur le site, de l'insertion par l'activité économique en Île-de-France. Vous êtes ici en studio avec Mélanie Luce. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant. Vous êtes étudiante vous-même en droit à l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Et nous sommes en liaison avec Florence Lefrène. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le CEREC, qui est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Vous êtes spécialiste d'économie du travail. Vous travaillez particulièrement sur l'emploi, les politiques de l'emploi et sur la formation des jeunes. Merci donc à vous trois d'être avec nous jusqu'à 13h20 à peu près. Thibaut Guiluy, vous étiez jeudi à Besançon, vous aussi, avec Jean Castex, Elisabeth Borne, mais aussi Jean-Michel Blanquer et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui était d'ailleurs sur France Culture cette semaine dans les matins, et qui tous ont confirmé et précisé cette semaine des mesures annoncées par Emmanuel Macron le 14 juillet et dont on peut commencer par débattre l'une après l'autre. La première d'entre elles, les entreprises exonérées de cotisations sociales à hauteur de 4 000 euros par an si elles embauchent un jeune de moins de 25 ans jusqu'à 2 SMIC. Thibaut Guiluy, comment vous allez vous assurer que ces entreprises n'auraient pas de toute façon embauché quelqu'un et qu'elles ne vont donc pas simplement profiter de l'aubaine ?
Sur cette mesure, en fait, dans le plan, notre objectif, en fait, c'est de ne laisser aucun jeune sur le carreau, aucun jeune sans solution, comme le dit Elisabeth Borne. Il y a une réalité, la sortie du Covid, et je pense que le témoignage de Tarek le montre bien.
Kader, ouais, au début d'émission, qui disait, parce qu'on n'a pas pu tout garder, mais il a d'abord perdu son stage à cause du Covid, et ensuite il s'est lancé dans la recherche d'un emploi.
Exactement, la recherche d'un emploi en ce moment, la réalité, c'est que de trouver un emploi et de rentrer donc dans l'emploi, donc pour les jeunes notamment, c'est extrêmement compliqué puisque la crise fait que les entreprises ne sont pas du tout dans une logique évidemment de recrutement actuellement. Face à cette réalité, vous avez 750 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail comme Kader, et il faut absolument faire en sorte que on facilite en fait l'accélération du redémarrage de l'emploi.
Donc les exonérations exonération de cotisations sociales, ça, dans fait, ce but-là. Le but, c'est de favoriser 450 000 recrutements.
Cette prime, c'est d'accélérer les recrutements, en fait.
En CDD prime, ou en CDI?
Cette prime de 4 000, alors ça peut être en CDD ou en CDI. Simplement, l'aide, en fait, elle est trimestrielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un encouragement, en fait, à recruter, évidemment, en CDI. En CDI, vous avez l'aide à plein. Et si vous recrutez que sur des CDD de 3 mois ou de 6 mois, bah, vous aurez une aide qui sera beaucoup plus restreinte. Ce qui fait qu'en fait, ça encourage effectivement à l'emploi durable. La deuxième chose, c'est que ça, c'est plutôt pour encourager le passage à l'action et de se dire non, non, les entreprises, n'attendez pas 6 mois, 9 mois de voir comment la conjoncture va repartir, mais n'hésitez pas à passer à l'acte et la nation, le gouvernement est à vos côtés pour accélérer ça.
Encore une fois, comment vous faites pour vous assurer que les entreprises qui n'auraient pas embauché de toute façon ne fassent pas que profiter de l'aubaine, effet d'aubaine dont on parle et qu'on redoute?
En l'occurrence, en fait, on ne redoute pas cet effet d'aubaine et j'ai envie de dire même, on l'assume. L'objectif, c'est des emplois qui auraient eu lieu dans l'immense majorité des cas. Simplement, aujourd'hui, les 722 candidatures que cette personne a envoyées, bah vous avez en face des employeurs de TPE, de PME, d'entreprises qui sont trop dans l'expectative, trop dans l'incertitude pour se dire « je vais attendre de sortir de cette phase d'incertitude pour pouvoir recruter ». Et nous, on leur dit « non ». Il faut qu'on puisse redémarrer. Il faut qu'on puisse donner aussi une chance à l'emploi des jeunes dès maintenant, parce que si vous laissez passer des mois et des mois, ça va en plus de ça mettre dans la précarité toute une génération. Ça n'est pas possible. Et donc c'est un appel en fait aux entreprises à s'engager et nous à les encourager à le faire.
Florence Lefrène, c'est loin d'être la première fois que ce type de mesure est appliquée. On pense au contrat jeune mis en place par François Fillon en 2002 et beaucoup d'autres. Avec quels effets en général?
Oui, alors effectivement, je pense que les effets d'aubaine qu'on sait massifs sur ce type de dispositif,
hein,
c'est pas
cette
vraiment
fois.
Ceux qui sont redoutés, ils seront assumés. Parce que là, on mise plutôt sur des effets de substitution, c'est-à-dire que même si les emplois nets créés sont pas aussi importants qu'on le pense, on aura modifié l'ordre dans la file d'attente des emplois au profit d'un jeune, en misant sur le fait que les salariés moins jeunes aura, lui, moins besoin de subventions. Mais en fait, on sait assez peu de choses sur les caractéristiques des publics ainsi substitués. C'est-à-dire que si un jeune qualifié vient prendre la place d'un salarié âgé peu qualifié, c'est pas évident que l'on soit gagnant. Alors, en montant à deux fois le SMIC, le niveau de la subvention, la conception, c'est effectivement de couvrir autant des jeunes qualifiés que des jeunes qui ne le seraient pas. Et de même qu'en ouvrant la mesure à la fois au CDI et au CDD de 3 mois, on ne donne aucun signal particulier sur la qualité de l'emploi que l'on souhaite obtenir. Donc je pense que là, le risque pourrait être de conforter l'entreprise dans une culture de salaire subventionné sans exigence en contrepartie sur la qualité de l'emploi. Pour ça, je pense que c'est important d'avoir en tête cette question de la qualité de l'emploi et également la nécessité de voir... se résorber finalement la mesure de subvention au moment où va redémarrer l'économie de manière à rester dans une réponse contracyclique et non pas d'installer ce type de mesure de façon structurelle.
Mélanie Luce, du point de vue de l'UNEF, du point de vue des jeunes.
Bah, bon, déjà, pour nous, il y a plusieurs éléments pour me concentrer un peu sur la mesure dont on discute. Effectivement, il y a un enjeu de contrepartie, c'est-à-dire que depuis le début de la crise, il y a des aides massives qui sont données aux entreprises, ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que le chômage partiel, ça a été quelque chose de nécessaire. La question, c'est quelles sont les contreparties derrière pour justement assurer l'emploi durable. Vous parlez d'emploi durable, pour moi, un CDD, c'est pas un emploi durable, justement. Le recours au CDD, au contraire, on pourrait recourir à un CDI à la place, bah justement, nous, c'est quelque chose qu'on dénonce. On pense que là, les jeunes qui vont rentrer dans le monde du travail, qui sortent, qui finissent de s'insérer, et ben en fait, ils cherchent un emploi stable. Effectivement, dans un contexte de crise sanitaire et de crise économique, ils cherchent un emploi sur le long terme. Et donc, c'est là où pour nous, ça devrait déjà être une exigence, c'est-à-dire que cette aide doit être conditionnée à l'embauche en CDI. Et effectivement, après, il y a des contreparties, notamment, ce qu'on voit, c'est que malgré les aides qui ont été données, il y a pas mal de plans de licenciement qui sont en cours, de plans de restructuration qui sont en cours. Et donc la question, c'est aussi comment il y a des garanties sur ces sujets-là, parce que si les jeunes sont embauchés en CDD juste le temps qu'on arrive à un plan de restructuration, ça répondra pas à la situation de crise dans laquelle on est.
Thibaut Guilluy. Le fait que vous ayez choisi ce spectre très large pour exonérer de cotisation les employeurs qui embauchent et en CDD et en CDI, mais aussi jusqu'à deux fois le SMIC, ce qui représente quand même 2 438 € net par mois. Donc ce ne sont pas que les plus bas salaires et donc les moins qualifiés qui y auront accès.
Oui. Sur la question des contreparties, je rejoins, mais on aura l'occasion d'y revenir dans l'ensemble du plan. Sur l'approche de l'économiste, c'est effectivement contracyclique. Encore une fois, c'est une mesure là qui est prise jusqu'au début 2021. C'est vraiment pour accélérer en fait la reprise en fait de l'emploi. Donc l'effet net sur la création à long terme de cette mesure en particulier n'est pas important, puisque par définition c'est pas une mesure qui est structurelle comme pourrait être le CICE ou des baisses de cotisations de charges dans la durée, mais c'est pour donner une chance à c'est pour accélérer le recrutement de 450 000 jeunes là-dessus. Sur les contreparties, je partage pas tout à fait l'avis de qui vient d'être dit, parce que justement dans la crise précédente, il y a eu des mesures de soutien aux entreprises sur lesquelles derrière il n'y avait pas de contrepartie. Là, par définition, à partir du moment où il y a un emploi, derrière, c'est pas une aide dont l'entreprise peut faire ce qu'elle veut, mais c'est la contrepartie, elle est qu'elle embauche plus rapidement qu'elle ne l'avait imaginé et qu'elle crée un emploi plus rapidement qu'elle ne l'avait imaginé. Et ça, pour tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont dans la situation de cadre, ça va compter quand même beaucoup pour ces 450 000 jeunes. Maintenant, il faut que ce soit complété avec tout un tas d'autres mesures de qualification et d'accompagnement, mais je pense qu'on va en parler ce matin.
Ouais, c'est vrai que vous dites que ça ne s'installera pas dans la durée. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler que ces cotisations sociales ne servent pas à rien. Elles retirent à la... Les alléger, c'est retirer autant à la sécurité sociale de fonds dont elle a besoin. On parle de 2 milliards d'euros de manque à gagner par cet allègement de cotisation. Et là, on parle aussi d'argent public qu'on offre à des entreprises.
C'est pour ça que ça n'est pas un allègement. Voilà. Ça n'est pas un allègement de charges. C'est une prime qui vient compenser les cotisations pour l'employeur, pour accélérer son recrutement. Mais le maintien du paiement des cotisations est là pour justement garantir la protection sociale, la qualité de la protection sociale pour les collaborateurs.
Mélanie Luce ?
Oui, je pense qu'il faut quand même faire la différence entre les différents dispositifs qui ont été mis en place. Vous dites, sous la dernière crise, il y a des dispositifs qui ont été mis en place sans contrepartie. Et vous considérez que l'emploi, la promesse d'un emploi même en CDD, c'est une contrepartie. Or, ça a été dit, hein, les contrats jeunes de François Fillon, c'était il y a maintenant un moment, et il y avait l'objectif de prendre un contrat derrière. Donc, pour nous, la contrepartie, elle peut pas se limiter à « il y aura un contrat ». On rappelle quand même que les jeunes représentent une grande partie des CDD. Les contrats courts, les contrats précaires, ce sont beaucoup des jeunes qui les occupent déjà. Et au-delà des jeunes qui vont se retrouver dans des situations difficiles là maintenant parce qu'ils viennent d'être diplômés, on a aussi tous les jeunes qui sont déjà sans emploi et qui étaient déjà sans emploi depuis plusieurs années. Tous les jeunes qu'on appelle les NITS, c'est-à-dire ni en formation, ni en emploi, ni en études. Ces jeunes-là, eh ben en fait, ils vont avoir encore plus de difficultés à trouver quelque chose. Et si c'est pour encore faire un CDD d'un mois, ça, ils en ont fait plein des CDD d'un mois, ces jeunes-là. Mais ils n'ont pas d'emploi sur le long terme. Et c'est ça qu'on demande.
Mais par ailleurs, il y a des mesures prises spécifiquement annoncées cette semaine, spécifiquement en ciblant les jeunes les plus éloignés de l'emploi, c'est-à-dire que ce ne sont pas des allègements, mais ce qui concerne les cotisations sociales, c'est une mesure très large. Il y a aussi des mesures très ciblées. Florence Lefrène, vous avez eu l'occasion de les analyser. Ce sont des choses qui ont déjà été testées par le passé aussi, ce qui concerne le retour des contrats aidés dans le secteur marchand, les nouvelles formations qualifiantes ou préqualifiantes qui seront proposées dans les métiers d'avenir à 100 000 jeunes.
Oui, effectivement, et même dans le secteur non marchand. Il y a d'ailleurs toute une tradition depuis le milieu des années 80 avec l'apparition des TUC, en passant par les contrats emploi solidarité du début des années 90, puis les CAE plus récemment. Ces contrats avaient été tarifs, vous vous souvenez, même le robinet avait été coupé en 2017. Et là, on revient à cette tradition, renoue avec cette tradition d'emploi ciblé dans le secteur marchand et non marchand. Je crois que c'est important de souligner que les évaluations dans ce secteur, des contrats aidés dans ce secteur, ne sont pas entièrement négatives. Elles induisent effectivement possiblement un effet de stigmatisation, c'est possible. On a vu par exemple au moment des contrats emploi solidarité que les jeunes essayaient de cacher sur leur CV le passage par un de ces dispositifs. Mais en même temps, pour beaucoup de jeunes, et en particulier les plus éloignés du marché du travail, les exclus dont parlait Mélanie précédemment, il s'agit quand même d'expériences, voire de resocialisation pour certains d'entre eux en grande difficulté qui sont loin d'être négligeables. Donc je pense qu'on peut saluer ces dispositifs, évidemment en soulignant également le recours au service civique accru et à la garantie jeune. La garantie jeune qui répond à ce que Mélanie disait tout à l'heure sur les NIT, hein, puisqu'il s'agit de jeunes en grande précarité qui vont pouvoir avoir accès à un accompagnement et surtout à un revenu, puisqu'il faut savoir que dans la garantie jeune, on a un revenu de 497 euros, hein, le montant du RSA, pour les jeunes qui en bénéficient. Donc tout ça sont des points que je pense positifs dans l'ensemble du dispositif.
Alors oui, Thibaut Guilluy, vous vouliez réagir. Oui, une question d'ailleurs, on parle de formations qualifiantes ou préqualifiantes qui seront proposées à 100 000 jeunes, mais si elles ne sont pas diplômantes, ça sert à quoi ?
Alors, elles sont...
S'il n'y a pas un diplôme à l'issue qui peut aujourd'hui encore permettre d'avoir un salaire un peu plus élevé pour le premier emploi.
Ouais, on pourrait gloser pendant longtemps sur le diplôme, effectivement la société du diplôme dans laquelle on est. Mais ce qui est important, c'est la qualification derrière, c'est la reconnaissance évidemment d'un ensemble de compétences, de savoir-faire qui ont été validées par les partenaires sociaux, par les branches professionnelles et par les entreprises, et donc qui donnent de la valeur justement. Et on voit bien d'ailleurs que l'apprentissage d'alternance, hein, qui a un volet aussi extrêmement puissant sur lequel le gouvernement depuis 2017 a une politique très très forte, hein, l'apprentissage s'est développé de 16% en 2019 et là on investit massivement dans l'apprentissage et on a rajouté depuis quelques jours évidemment intégré aussi les contrats de professionnalisation puisque c'est une voie qui fonctionne très très bien pour l'insertion durable des jeunes, l'insertion durable évidemment. Un contrat durable, c'est le CDI, enfin après dans l'acceptation ça peut être aussi un CDI de 6 mois, mais évidemment à moins, j'ai jamais dit et je ne considère pas tout comme vous qu'on peut imaginer qu'un contrat de travail d'un mois est une solution pour un jeune. Maintenant, vous avez parlé des jeunes NEET, c'est aussi la particularité de ce programme. C'est
les
pas
jeunes NEET.
Oui, c'est-à-dire sans formation, sans diplôme, sans emploi, qui est une préoccupation et qui est quand même un mal français depuis des années et des années. Il y en a 780 000 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment sur le bord du chemin des centaines de milliers de jeunes. Et donc, cette situation de crise, vous imaginez bien qu'ils vont être encore plus relégués et que l'espoir, la perspective même de pouvoir retrouver un emploi, une utilité sociale ou etc., s'éloigner. C'est pour ça qu'avec Elisabeth Borne, et Jean Castex, ils ont veillé à ce qu'on apporte des solutions en un nombre plus important que le nombre de jeunes qui arrivent de cette année. C'est plus d'un million de solutions qui vont être apportées parce qu'il faut qu'on attaque et qu'on propose un espoir, une perspective, un accompagnement, un emploi à ces jeunes-là en priorité.
Alors vous parlez, Thibaut Guilluy, de l'apprentissage et cette aide qui sont déjà en vigueur depuis le 1er juillet pour les embauches de jeunes en apprentissage, 5000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans, 8000 euros pour un majeur, à destination bien sûr des employeurs. Je vous propose d'écouter d'abord cette jeune fille qui préfère ne pas dire son nom et qui cherche aussi une alternance, mais pas un apprentissage, une alternance.
Je vais faire un master en audit et contrôle de gestion à partir de septembre. J'ai 23 ans. Je viens déjà du Cameroun où j'ai fait une licence en gestion des opérations. Il me faut une alternance pour l'année prochaine parce qu'avant d'arriver en France, j'avais un budget pour mes études sur 2 ans et je me retrouve à faire 3 années d'études déjà qui n'étaient pas prévues. Et avec la crise sanitaire et tout, j'ai fait des dépenses supplémentaires qui sortent forcément de mon budget. Déjà, je pense que l'État ne nous aide pas assez sur ce côté-là puisque la plupart des propositions qu'ils font sont limitées au contrat d'apprentissage. Du coup, j'ai eu plusieurs refus parce que je ne cherche pas un contrat d'apprentissage, je cherche un contrat de professionnalisation. Et lorsqu'ils limitent les offres au contrat d'apprentissage, ça nous limite, nous aussi, puisque déjà c'est limité. C'est comme si les étudiants en master n'existaient pas. Et par la suite, c'est contrat d'apprentissage. Du coup, les entreprises vont chercher plus à recruter les étudiants en contrat d'apprentissage pour pouvoir toucher la récompense.
La récompense, comme dit cette étudiante, c'est cette subvention que touchent les entreprises, donc ou toucheront, qui prennent un jeune en apprentissage. Les jeunes qui restent une année de plus en études, ce que dit cette demoiselle, c'est quelque chose qui a lieu de plus en plus souvent. Encore faut-il se le permettre de se payer une année de plus, Mélanie Luce ?
Bien sûr, bien sûr. On constate déjà là cette année qu'il y a une grosse tension dans l'enseignement supérieur. Il y a une tension à l'entrée de l'université, puisqu'il y a une sélection qui est mise en place et on a 93 000 jeunes qui n'ont pas d'inscription. Mais il y a aussi une tension au niveau master parce qu'il y a des jeunes qui trouvent pas d'emploi et qui se réinscrivent en master, et donc c'est un peu des situations qui sont expliquées là. Et en fait, justement, la crise et la difficulté d'insertion des jeunes, on est tous d'accord dessus. Effectivement, on a des milliers de jeunes qui se retrouvent à rentrer dans le monde du travail dans une situation très compliquée, et des jeunes qui étaient déjà sans emploi. La question, c'est comment on arrive à faire en sorte que ces jeunes ils sortent de cette situation et qu'ils aient un emploi qui corresponde à leurs qualifications, puisque là-dessus je suis d'accord avec ce qui a été dit. L'enjeu, c'est que nos diplômes, notre qualification, elles nous permettent d'avoir un emploi qui correspond à ça. La première chose pour nous, c'est déjà la reconnaissance officielle des qualifications dans les conventions collectives, puisque ça, aujourd'hui, on n'est toujours pas réellement à ça. Mais au-delà de tout ça, nous, ce qu'on pense, c'est que déjà, c'est positif, ce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, c'est positif que les jeunes soient au centre de l'attention en ce moment, c'est quelque chose de nécessaire. Par contre, la question, c'est les dispositifs qui sont mis en place, est-ce qu'ils vont être efficaces ou non ? On parle de la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un dispositif qui fonctionne, qui a aidé certains jeunes, mais qui malheureusement est trop court. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec des jeunes, si ça fait un an qu'ils sont en garantie jeune, ils n'auront plus d'aide financière. Et c'est pour ça que pour nous, le grand manque de ce plan, c'est l'accompagnement social. Parce que si on veut que ces jeunes, justement, qui sont sans emploi, sans formation, trouvent quelque chose, il faut qu'ils aient un minimum pour pouvoir se retourner et prendre le temps de chercher quelque chose qui correspond à leur diplôme.
Je me tourne vers Florence Lefrène pour rester un tout petit peu sur ces mesures annoncées qui concernent l'apprentissage. Est-ce qu'on a une idée des premiers effets de la loi Avenir Professionnel de 2018 qui devait déjà simplifier la formation professionnelle et l'apprentissage, et est-ce qu'on peut attendre de cette mesure d'ouverture encore une fois à l'apprentissage ?
Oui, effectivement, on voyait une dynamique très clairement relancée de l'apprentissage avant la crise sanitaire. Et le gros risque, c'est que la crise vienne casser cette dynamique. Pourquoi ? Bah parce que l'apprentissage a une caractéristique, c'est d'être procyclique. Hein. Lorsque les carnets de commandes sont vides, eh bien, on ne recrute pas d'apprentis. Et ça, c'est une grosse différence avec l'Allemagne, par exemple, parce que l'Allemagne, qui a assis son système d'apprentissage sur un compromis social extrêmement fort, fait en sorte que, y compris dans les périodes de baisse du cycle économique, eh bien, les entreprises continuent à jouer le jeu de l'apprentissage, de manière à ne pas se trouver démunies en termes d'offres de personnes formées au moment où la conjoncture redémarre. Il y a d'autre part toute la problématique des ruptures de contrats d'apprentissage qui est très importante. Vous savez que plus du quart des contrats d'apprentissage sont rompus. Donc, même si les mesures jouent en faveur du recrutement d'un apprenti, il faut encore que le contrat soit solidifié. Et ça, c'est une vraie question qui interpelle, y compris le contenu des formations. L'éducation nationale doit faire un effort important en matière d'orientation des jeunes vers les apprentissages qui les intéressent, de manière à ce qu'il n'y ait pas, il y ait moins d'abandon du côté des jeunes. Et évidemment, un effort du côté des employeurs qui doivent également consolider leurs contrats. Et ça passe par quoi ? Bah, ça passe par une mobilisation des branches. C'est très important et c'est au cœur de la réforme et de la loi du 5 septembre 2018. Tant que les branches ne sont pas suffisamment impliquées, tous les partenaires de branches ne sont pas suffisamment impliqués, à la fois dans la définition des besoins et compétences des entreprises, parce que les grosses entreprises connaissent leurs besoins, mais les petites entreprises ont besoin d'être accompagnées. Et de la même manière, l'accompagnement doit concerner les apprentis eux-mêmes, c'est-à-dire que le tutorat doit jouer son plein pour que effectivement l'apprenti soit formé non seulement dans le CFA mais dans l'entreprise elle-même à travers cet accompagnement.
D'ailleurs, des entreprises ont été incitées à ouvrir leur propre centre de formation. Thibaut Guilluy, ces dispositifs-là, ils restent encore quand même très peu connus, ils sont pas très lisibles, certains ne savent même pas qu'ils y ont droit.
Oh, je vous trouve quand même un petit peu.
Je vous pose la question.
Je vous trouve quand même un petit peu dur. sûr. Ce qui est clair, et ce qu'a dit Madame Le Fren est tout à fait juste, c'est que par rapport à des pays comme la Suisse ou l'Allemagne, on a clairement encore une culture déficitaire de l'apprentissage et de l'articulation finalement entre l'acquisition de qualifications qui soit reconnue, évidemment, vous avez tout à fait raison de le souligner, Mélanie Luce, mais elles le sont d'ailleurs dans le cadre de l'apprentissage.
En Suisse, au plus haut niveau de l'État, c'est vrai qu'il y a des responsables politiques, qui sont passés par l'apprentissage même et qui vantent les mérites pour leurs enfants l'apprentissage.
Exactement. Et la mobilisation des entreprises et puis des branches professionnelles. Franchement, il y a eu, je vais pas m'attarder dessus, mais énormément de mesures de simplification et d'adaptation qui ont été faites avec cette loi sur l'avenir professionnel et qui concrètement a eu des résultats, puisqu'il y a jamais eu autant de création de centres de formation et d'apprentis partout en France par des entreprises ou des branches professionnelles. Et surtout, concrètement, en 2019, plus 19%, on n'avait jamais vu ça dans toute l'histoire de l'apprentissage en France. Donc c'est des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes qui ont accédé à ça.
Donc plus 19%, on en a parlé avec le nouveau ministre des PME la semaine dernière, c'est aussi un effet entre guillemets cliquet, c'est la fin des contrats de professionnalisation qui se sont transformés en contrats d'apprentissage.
Non, parce que les contrats de professionnalisation, la dynamique de développement des contrats de professionnalisation est tout aussi forte. Et d'ailleurs, ce que disait
Florence
Lefrène.
Elle voulait pas qu'on se dise son nom, mais d'ailleurs ça c'est pas... un autre sujet parce que les patronymes sont aussi
on y reviendra sur les patronymes, mais en tout cas elle voulait peut-être pas dire son nom, mais elle soulignait qu'il y avait pas de choses qui avaient été faites pour les contrats de professionnalisation. Et c'est vrai que dès le mois de juin on a voulu annoncer pour l'apprentissage et ça a été conforté avec les mêmes mesures sur les contrats de professionnalisation qui touchent aussi 280 000 jeunes je crois en France par le gouvernement Castex il y a quelques jours. Donc on met le paquet aussi là-dessus et Madame Le Fren disait quelque chose de très juste, c'est que ce que nous devons réussir maintenant, c'est pas qu'une histoire du gouvernement, c'est une histoire de culture des entreprises et des branches professionnelles, de comprendre qu'aujourd'hui le chef d'entreprise, il a un choix à faire, de se dire, est-ce que je comprends que cet apprentissage, cette alternance, c'est un investissement pour l'avenir, c'est préparer les compétences, parce que sinon dans un an ou dans deux ans, la reprise va être forte à partir de l'année prochaine. Il y a en tout cas des prévisions qui sont quand même relativement encourageantes. Et là, on va se plaindre de ne pas trouver les jeunes avec les qualifications et les expériences professionnelles. Et donc là, il y a une union à faire entre les entreprises et les pouvoirs publics pour réussir ce plan.
Alors vous disiez, Thibaut Guilluy, tout à l'heure, combien aujourd'hui encore un diplôme, c'est la reconnaissance des compétences ou des savoir-faire. Mais vous disiez qu'il y avait un débat. En effet, les diplômes ne donnent même plus la garantie d'un emploi. C'est vrai que par ailleurs, le coronavirus a compliqué ne serait-ce que l'accès à un stage.
Je m'appelle Amaury, j'ai été diplômé de Sciences Po Lille en 2018 et après un an à l'étranger où j'ai voyagé, fait un peu de bénévolat à l'étranger, je me suis inscrit à la fac à Paris, à Paris 3, surtout pour pouvoir rattraper le marché du travail par le circuit des stages. J'ai trouvé un stage dans une association à Bobigny, donc en programmation dans une friche culturelle. J'avais pu commencer un mois. Et quand le Covid est arrivé, donc mon stage a été annulé et je suis retourné chez mes parents. Là, je me fais plutôt jeune et je repars maintenant sur le marché du travail à 26 ans. Je commence même à me dire que de plus en plus, je me dis il faut que je prenne ce qui vient et pas ce qui me plaît.
Prendre ce qui vient et pas ce qui nous plaît. Jusqu'à présent, enfin il y a encore pas si longtemps en tout cas, être admis dans une grande école comme Sciences Po Lille pour Amaury, c'était quand même au moins l'assurance de pouvoir faire ce qui plaît et pas ce qui vient. Mélanie Luce, vous avez des nombreux témoignages comme ça à l'UNEF de personnes qui n'ont plus de stage et qui se mettent à chercher un emploi même s'ils ont des diplômes et des qualifications qui jusqu'à présent étaient des sésames.
Oui, on a beaucoup de jeunes qui nous ont contactés pendant le confinement parce qu'ils ont perdu leur stage. Alors il y a plein de situations différentes. Il y a les jeunes qui sont encore en études et qui avaient besoin notamment d'un accompagnement financier. Puis il y a effectivement des jeunes qui étaient en fin de cursus et qui effectivement cherchent un emploi. Alors le diplôme reste protecteur parce que ce qu'on constate c'est quand même qu'un diplômé de master a beaucoup moins de risques d'être au chômage que quelqu'un d'autre, que quelqu'un qui est diplômé par exemple seulement du baccalauréat. Mais bon, ces chiffres-là déjà c'était avant la crise du coronavirus, donc on attend d'avoir des chiffres plus précis. Mais c'est certain qu'il n'y a plus une certaine protection. Mais ce qui touche les jeunes en fait, c'est que le chômage des jeunes est particulièrement haut depuis longtemps. Quand on a eu la crise de 2008, on a un chômage des jeunes qui a explosé. Sauf qu'on n'est jamais retourné au taux de chômage chômage qu'on avait avant la crise en ce qui concerne les jeunes. Et là, on se prend en plus la crise du coronavirus, ce qui fait que ça aggrave notre situation. Moi, je voulais réagir d'abord sur deux éléments.
Pas l'apprentissage, il faut qu'on avance, s'il vous plaît, Mélanie Huss. Non, vraiment, on avance.
Très, très rapidement. Attention, effectivement, à pas considérer que l'apprentissage, c'est uniquement, c'est un moyen d'insertion. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est un moyen de formation. Et donc, l'enjeu, c'est aussi d'amener les entreprises
comme
et de responsabiliser les entreprises à former, à garantir les droits des apprentis et à amener à l'emploi. Et sur les services civiques, puisque on a eu tout à l'heure quelque chose là-dessus, la création de contrats en service civique, pour nous, elle n'a rien à voir avec la question de l'insertion professionnelle. Le service civique, c'est un dispositif qui encourage à l'engagement. Donc c'est positif, effectivement, qu'on ait des contrats en plus sur l'engagement. Mais par contre, encore une fois, ce serait considérer que c'est une main-d'œuvre bon marché que de dire « Ah, les services civiques, ça va permettre de créer de l'emploi. » Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, si on communique dans ce sens-là, c'est le message qu'on envoie aux entreprises et nous, ce n'est pas le message qu'on pense qui doit être envoyé.
Florence Lefrène, il est trop tôt aujourd'hui pour tirer des enseignements sur la crise actuelle, la crise en tout cas sanitaire, sur l'emploi des jeunes. Mais est-ce que le CEREC que vous dirigez et qui mène régulièrement des enquêtes dites « génération », vous étudiez des parcours pendant 7 ans, pas seulement 6 mois après la sortie d'études, mais est-ce que le CEREC d'ores et déjà peut commencer à réfléchir sur ce que cette crise encore toute récente peut avoir comme effet sur les transformations structurelles de l'emploi des jeunes?
Absolument. Voilà, on a pu comparer la trajectoire des jeunes qui sont sortis en 2010, c'est-à-dire plein cœur de la crise de 2008 encore, hein, et qu'on a suivi pendant 7 ans et qu'on a comparé aux jeunes sortis en 98, au moment d'une période économique très favorable et qu'on a observé également pendant 7 ans. Les enquêtes génération permettent de suivre ces cohortes de jeunes sortis une même année et à tous les niveaux de formation. Alors je voudrais mettre en exergue deux résultats importants lorsqu'on compare ces deux générations, l'une confrontée à la crise, la plus récente, et l'autre confrontée à une période économique favorable, la plus ancienne. On voit en fait, premier résultat, que même si les taux de chômage vont avoir tendance à converger au bout de 7 ans, vous voyez, c'est intéressant de voir les choses avec une profondeur de 7 ans, eh bien les effets sont bien là, de façon assez imprégnée pour la génération qui a subi la crise de 2008. Ils ont passé moins de temps en emploi, et d'autre part, la part des jeunes qui ont connu une trajectoire dominée par un chômage persistant ou récurrent a doublé. Et puis, on peut dire également que leur dynamique professionnelle à ces jeunes s'est globalement ralentie pour ceux qui ont connu la crise. C'est-à-dire, ils ont connu moins de mobilité ascendante entre le début de leur insertion et l'observation à 7 ans. Ça, c'est un premier résultat. Un deuxième résultat qui est très important à mentionner, c'est que les crises, la crise de 2008, a accru les inégalités de parcours selon les niveaux de diplôme. Par exemple, les non-diplômés ont été les plus durablement atteints. Leur exclusion du marché du travail s'est accélérée. C'est ainsi qu'ils ont passé moins de la moitié des 7 années d'observation en emploi. Et à l'autre bout, pour les diplômés, on a observé moins d'effets durables sur l'emploi, mais en revanche, des effets sur le pouvoir d'achat. Par exemple, les ont perdu 12% de pouvoir d'achat entre la génération 98 et la génération 2010.
Alors,
on voit là un effet important sur le pouvoir d'achat des diplômés.
Merci beaucoup Florence Lefrène. Thibaut Guy, lui, vous entendez Madame Lefrène parler des trajectoires des jeunes aujourd'hui dominés par un chômage persistant, des inégalités de parcours creusées, une baisse des revenus. Pourquoi n'avoir pas pris la question de l'emploi des jeunes et des jeunes tout court de façon encore plus large, en ne vous concentrant pas seulement sur l'emploi, mais aussi, alors c'est moins votre domaine, vous êtes haut commissaire à l'insertion notamment, mais en ouvrant le RSA aux moins de 25 ans, en réformant l'assurance chômage, notamment sur la durée de cotisation nécessaire pour percevoir le chômage, donc faire quelque chose d'encore plus large, encore plus ambitieux.
Oui, non, mais alors vous avez complètement raison, et on n'y a pas du tout renoncé, puisque c'est tout l'objet d'ailleurs du programme de concertation sociale qui a été engagé par le président de la République et puis le Premier ministre, et le menu de ces discussion a été posée pas plus tard que cette semaine avec l'ensemble des partenaires sociaux sur l'assurance chômage, sur les compétences, sur la qualité des emplois et la lutte contre les précarités, etc. Enfin voilà.
Ouvrir le RSA au moins de 25 ans, vous y êtes favorable?
Alors, moi en fait, je vais vous dire très franchement, ça fait 22 ans maintenant, je pense depuis que je suis sorti de justement des études, que je m'occupe de l'insertion concrète des jeunes. Et ce qui est important, c'est le débat du RSA jeune, je pense qu'on n'a pas le temps franchement de l'ouvrir, mais moi ce qui est important, c'est que la situation financière ne grève pas la capacité d'un jeune à pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que il y a des inégalités qu'a soulevé Madame Le Fresne, qui sont très importantes. Qu'est-ce qu'on fait là dans le plan jeune? L'accès aux stages de formation professionnelle, on va passer les montants de prise en charge à justement 500 euros. Il n'avait pas évolué depuis 1988. La garantie jeune ou les 50 000 garanties jeunes supplémentaires ou les 80 000 PACEA supplémentaires, c'est quoi? C'est bien de pouvoir donner l'équivalent du RSA jeune pour tous les jeunes qui se mettent dans un parcours d'accompagnement et de recherche d'emploi. Donc, il y a énormément de mesures qui sont faites où on prend en compte ça pour lutter contre les inégalités. Le dernier point, madame, qui est très important pour moi, c'est qu'on mobilise énormément de dispositifs pour tous les jeunes, du moins diplômé au plus diplômé, partout en France, est une chose. Mais si on a envie de réussir, on a deux défis. Le premier, c'est celui de la lutte contre les inégalités, parce que c'est quand même terrible dans notre République qu'on ait des jeunes qui ne veuillent pas mentionner leur prénom quand ils font un témoignage auprès de vous, parce que leur patronyme ou leur adresse pour le jeune de Bobigny, on sait très bien que c'est un facteur d'inégalité.
C'était le cas de Kader qu'on a entendu au début, qui nous a bien dit vraiment formellement qu'on lui a conseillé de changer de nom.
On a bien l'intention de lutter durablement contre cette discrimination et de profiter de cette dynamique du plan jeune pour lutter contre ces discriminations qui sont intolérables. Et la deuxième chose, c'est la mobilisation dans les territoires. Parce que on peut sortir tout un tas de dispositifs, tout un tas d'aides, etc. Si chacun vient faire son marché plutôt que d'avoir une forme de coalition nationale sur les territoires, entre les entreprises, les associations de jeunesse, les élus locaux et les pouvoirs publics pour réussir, sinon on n'y arrivera pas.
Mélanie Luce.
Mais dans ce cas-là, j'ai une question pour vous. Pourquoi ne mettez-vous pas en place le CV anonyme? C'est-à-dire que oui,
ça fait des années qu'on en parle. Ça fait vraiment des années qu'on en parle.
Le CV anonyme avait été adopté. Il manquait qu'un décret d'application. Il n'a jamais été passé. Et ensuite, on est revenu dessus. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc, il y a une discrimination raciale à l'insertion. C'est-à-dire qu'il y a du racisme qui fait qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui ne trouvent pas d'emploi. Mais dans ce cas-là, il faut prendre des mesures. Et c'est pareil sur le RSA. Je trouve que vous répondez pas à la question. Pour nous, le RSA, c'est un filet de sécurité. J'entendais justement Gabriel Attal, l'ancien secrétaire d'État à la jeunesse, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, dire que le RSA n'est pas un horizon pour les jeunes. Personne ne pense que c'est un horizon, le RSA. Par contre, vous parlez vous-même
si
de 750
c'est le filet...
000 jeunes.
Si vous 700...
Attendez, vous aurez l'occasion de répondre juste après.
Sans emploi, sans formation, sans études, et qui sont donc totalement à l'abandon. Vous le dites vous-même, ces jeunes-là, au bout d'un an, ils n'ont plus droit à la garantie jeune.
On arrive
donc,
à la fin de l'émission.
Il faut pouvoir trouver une solution. Et le RSA, c'est cela.
Thibaut
Guilluy. C'est à la fois une protection sociale et un moyen de pouvoir se retourner le temps de trouver quelque chose, justement, qui n'est pas juste une solution, mais quelque chose qui leur plaît et qui correspond à leur qualification.
Thibaut Guilluy, dans la métropole de Lyon, d'où je viens, près de 50% de ceux qui appellent le SAMU social, le 115, ont moins de 30 ans. La question du RSA au moins de 25 ans, ça reste quand même un angle mort du système de... Enfin, les jeunes, en général, restent un angle mort du système de protection sociale.
Oui, mais complètement. Mais c'est pour ça que... C'est sûr que c'est peut-être un débat d'experts là-dessus, mais la garantie jeune, c'est le niveau du revenu d'un RSA jeune, mais avec un accompagnement intensif du jeune pour y arriver.
Mais ça parce dure que... un an.
Attendez, c'est un revenu. Enfin, moi, je crois au revenu s'il y a un accompagnement, une perspective d'emploi à la fin. Et ça, c'est ce en quoi nous croyons au niveau du gouvernement.
Voilà,
c'est pour ça qu'on n'a jamais mis autant de moyens dans l'accompagnement et dans les revenus pour cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir trouver un emploi, il faut des réseaux. Et il y a une discrimination socio-culturelle. Les jeunes issus de milieux modestes, avant même de parler de patronyme et d'adresse, et ça, c'est toutes les associations qui luttent contre les discriminations qui le disent, n'ont pas accès à ces réseaux. C'est pour ça qu'on va mettre des moyens pour le coaching, pour le parrainage et pour l'accès aux entreprises des jeunes.
Vous avez vraiment 10 secondes, Mélanie Luce, c'est la fin de cette
RSA,
partie.
Aujourd'hui, la différence, c'est que c'est une protection sociale pour tout le monde sans limitation de durée. Ça n'empêche pas d'avoir un accompagnement par le biais de Pôle emploi, par le biais des universités, par le biais des CROUS. Puis la dernière chose, c'est les jeunes diplômés qui rentrent dans le monde du travail. Là, il y avait besoin d'une aide à l'insertion de ces jeunes diplômés. Elle existait, cette aide, et c'est votre gouvernement qui l'a supprimée en 2019. Mais c'était l'aide à la recherche au premier emploi, et ça permettait pendant 4 mois de continuer à recevoir un financement. Cette aide-là, il fallait la faire revenir. C'était ça l'enjeu de ce plan, à mon sens.
Vous aurez l'occasion d'aller le dire lundi, vous serez reçu par le gouvernement.
Donc là, on met 500 euros plutôt que 100 euros pour les jeunes, c'est un petit peu.
C'est pas du tout les mêmes.
Bon, vous continuerez cette discussion, Thibaut Bilu et Mélanie Luce, lundi, puisque vous vous rencontrez au plus haut niveau. Les discussions continuent pour que continuent aussi à être élaborées des mesures en direction de cette jeunesse qui n'a pas été épargnée par le coronavirus. Merci également, Florence Lefrène, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez le CEREC, qui est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Et je remercie également l'association Article 1. C'est une association d'accompagnement à l'accès à l'emploi des jeunes en difficulté. Et c'est elle qui nous a permis de rencontrer 2 des 3 jeunes que vous avez pu entendre au cours de cette émission, rencontrés et interrogés par Lucas Lazo, Léo Grillet et Aliette Ovine. Dans un instant, l'Inde peut-elle remplacer la Chine dans le cœur de l'Occident ? Aaj Shani Bar, l'un des titres de Rupa Sen, chanteuse indienne de Calcutta, qui a découvert l'année dernière seulement que son unique album enregistré en 1982 faisait un carton sur Internet. C'est un disquaire indépendant de Manchester qui l'a découvert, comme le racontait récemment un article du Monde Magazine. Des copies originales de cet album se monnaient aujourd'hui plus de 550 euros pièce. Voilà qui rappelle l'histoire du chanteur Sixto Rodriguez racontée par le film Sugarman, d'autant que Rupa Sen n'a jamais touché la moindre roupie de droit d'auteur.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
Et c'est justement à l'Inde que nous consacrons cette deuxième partie du magazine du week-end. L'Inde qui paraît profiter de ce que les Européens et les Américains se détournent de plus en plus de la Chine, plus encore après la crise du coronavirus, pour avancer ses pions et se poser en allié. Ce 14 juillet, par exemple, était organisé à distance un sommet Inde-Union Européenne avec l'intention affichée de mettre en place un dialogue de haut niveau sur l'investissement et le commerce. Et son premier ministre, Narendra Modi, ne ménage pas ses efforts pour convaincre.
L'Inde est en train de devenir une terre d'opportunités. Laissez-moi vous donner un exemple, celui du secteur de la tech. Récemment, un rapport intéressant est sorti en Inde. Il montre que pour la toute première fois, il y a désormais plus d'utilisateurs d'Internet en milieu rural qu'en milieu urbain. Imaginez cela, il y a actuellement environ un demi-milliard d'internautes actifs en Inde. Un demi-milliard de personnes connectées.
Does this sound huge to you? Hold your breath.
Cela vous semble énorme? Retenez votre souffle, parce qu'un autre demi-milliard de personnes supplémentaires sont en train d'être connectées. Les opportunités technologiques concernent également les technologies de pointe, la 5G, l'analyse de mégadonnées, de l'informatique quantique, la blockchain et les objets connectés.
Narendra Modi, mercredi dernier, lors d'une conférence de presse. Bonjour Philippe Imbert. Philippe Imbert, est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes notre premier invité pour cette discussion. Est-ce que Jean-Joseph Boileau est ici?
Bonjour Julie Gacon.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Mais merci, bien, merci vous aussi. Il faut que je
merci
vous présente.
Merci de cette chanson de Calcutta.
Vous l'aimez beaucoup?
Très belle.
Vous la connaissez?
Ah oui.
Très
bien. Je n'ai pas acheté le disque parce qu'il est un peu cher, mais il est très très belle chanson.
Je vous présente Monsieur Boileau. Vous êtes professeur agrégé de sciences sociales et docteur en économie, chercheur à l'IRIS, où vous travaillez spécifiquement sur les grands pays émergents. Et vous êtes donc en discussion, mais c'est vrai qu'à distance et par liaison, tout est un peu plus compliqué, mais on y arrive, avec Philippe Imbert. Bonjour. Est-ce que Monsieur Imbert est avec nous? Eh bien, le temps que Monsieur Imbert nous rejoigne, Jean-Joseph Boileau, je vais diriger à vous cette première question. Cette sorte de gros appel d'offres qu'a lancé Narendra Modi il y a deux jours et qu'on vient d'entendre traduit par Aliette Ovine, est-ce que c'est une sorte de coup de pub opportuniste à l'heure où les Occidentaux cherchent des alternatives à la Chine, ou est-ce que c'est une ambition plus structurelle manifestée depuis longtemps?
Écoutez, on n'a pas le droit de dire de gros mots sur France Culture, mais en anglais,
s'il
ça va
plaît.
Passer. Bullshit. C'est très clair, la réaction en Inde à ce sommet Inde-Union européenne a été quasi unanime. Il n'y a rien à en attendre. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est ce que vous avez bien décrit comme étant cette mise en avant d'opportunités immenses pour l'Europe, c'est-à-dire la retape un peu du marché indien pour les Européens. En réalité, on s'intègre là dans le paradigme plutôt des années 2005-2010, lorsque effectivement l'Inde et l'Europe avaient bien avancé ensemble sur un partenariat stratégique visant non pas à être un rempart à la Chine, mais à fournir à ces deux puissances secondaire d'une certaine façon par rapport à la Chine et aux États-Unis, une sorte d'alliance stratégique. Et là, les entreprises européennes et les entreprises françaises, et j'étais à Delhi à cette époque à la mission économique, arriver effectivement assez massivement en Inde, dans des secteurs à la fois des technologies de l'information, mais aussi la pharmacie, il ne faut pas oublier Sanofi, je pense qu'on y reviendra. Et d'un autre côté, rappelez-vous, les entreprises indiennes arrivaient massivement sur le marché européen, en particulier le rachat d'ArcelorMittal, bien sûr, mais aussi Jaguar, Rover par le groupe Tata, etc. Cette période est complètement révolue. Et la crise du Covid-19 est très intéressante sur le plan de la redistribution des cartes à l'échelle mondiale. D'une part, l'Europe est beaucoup moins demandeuse maintenant de ce genre de partenariat stratégique. Elle a moins confiance en l'Inde et parce qu'elle a moins confiance dans Modi, tout simplement. La dérive autoritaire aujourd'hui ne fait plus du modèle indien de la plus grande démocratie du monde un modèle très attractif. Et puis enfin, il y a en Europe, bien sûr, ce thème de la relocalisation. À un moment donné, les Européens ont pensé que l'Inde pouvait être une sorte d'étape dans la relocalisation du Made in China. Je pense que maintenant, tout le monde est bien d'accord. La relocalisation sera européenne ou ne sera pas.
Alors, nous avons retrouvé Philippe Imbert, que je salue. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Vous n'avez pas entendu la question.
Mais là, je vous en prie, on va y arriver. Je rappelle que vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès et que vous avez publié il y a 2 ans un rapport sur la diplomatie de l'Inde de Narendra Modi. Donc vous n'avez pas entendu ce que vient de dire Monsieur Boileau, mais ce n'est pas grave. Je vous pose un peu sensiblement la même question. Narendra Modi, aujourd'hui, peut-il se permettre de dire explicitement qu'il se propose de remplacer la Chine, en quelque sorte, à des messages à destination des Européens, des Américains? Ou est-ce que Chine et Inde sont encore, malgré les tensions politiques dont on va parler, sont encore de gros partenaires commerciaux?
Enfin, du point de vue indien, la diplomatie a été toujours traditionnellement, de deux sortes. C'est une diplomatie économique, c'est-à-dire que l'Inde cherche à attirer des investissements, attirer la technologie, attirer du commerce. Diplomatie économique. Et de ce point de vue-là, l'Europe, pour l'Inde, constitue un réservoir à la fois d'investissement. Il y a un stock d'investissement européen très important, de la technologie et évidemment des flux commerciaux. Et le deuxième axe, c'est une diplomatie de sécurité. Sécurité militaire, sécurité aux frontières, sécurité des espaces maritimes, sécurité dans la lutte antiterroriste, et maintenant surtout la cybersécurité, puisque la cybersécurité, c'est probablement un des grands axes stratégiques d'affrontement entre les nations, comme on le voit entre les États-Unis et la Chine, et l'Inde n'est pas du tout à l'abri et essaye de trouver des parades, comme on le voit par la suspension, par exemple, des applications TikTok,
voilà.
Une application chinoise très importante, qui tout d'un coup ont été arrêtées par le gouvernement Modi.
Voilà, parce que beaucoup
donc,
moins... Beaucoup,
non, monsieur Modi...
Monsieur Imbert, parce que beaucoup moins moderne que la cybersécurité, il y a quelques semaines à la frontière entre l'Inde et la Chine, c'était dans la région de Ladakh, c'est la région de l'Himalaya qui est contestée aujourd'hui encore entre les deux voisins, des soldats chinois et indiens qui se sont carrément entretués à main nue, puisqu'en tout cas sans armes à feu en vertu d'un certain protocole. Et 2 semaines après cet affrontement à la frontière, New Delhi a décidé en effet de prendre des mesures de rétorsion, non pas militaire, mais économique, en fermant l'accès et l'usage d'une 60aine d'applications numériques chinoises. Vous venez de le dire, Philippe Imbert, la plateforme d'échange de vidéos TikTok, l'outil de partage des fichiers Shareit, pour, a dit l'Inde, assurer la sécurité et la souveraineté du cyberspace indien. Ce qu'elle reproche à ces applications, c'est peu ou prou ce que les États-Unis reprochent à Huawei, en fait, Jean-Joseph Boileau.
Oui. C'est toujours intéressant, là encore, de faire attention au cas indien où il y a à la fois l'autorité fédérale, c'est-à-dire donc en l'occurrence Narendra Modi et son parti BJP nationaliste, fondamentaliste hindou, et de l'autre côté, la société indienne. En ce qui concerne Modi, il est évident qu'il a été pris à défaut par cette attaque de la Chine, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Il s'agit d'une attaque sur un territoire qui est, on va dire, contesté, sur lequel il n'y a pas eu d'accord de paix véritablement. Et je pense que Narendra Modi se sentait plutôt tranquille sur ce front et il s'est en fait dégarni. La société indienne, de son côté, a voté massivement pro-Chine d'une certaine façon, en devenant le premier partenaire commercial de l'Inde. La Chine a vendu et a inondé le marché indien, et en particulier effectivement d'applications, de téléphones mobiles, etc., etc. Et il y a eu tout d'un coup la prise de conscience de cette contradiction entre d'un côté la vision fédérale de la sécurité et de l'autre côté cette addiction désormais de la société indienne pour tous ces objets connectés et autres, et donc du Made in China.
Est-ce que ces mesures ont de quoi mettre la Chine en difficulté?
Oui, bien sûr, parce que ce que vous mettiez tout à fait justement au début en exergue, c'est-à-dire ce fameux demi-milliard d'internautes et du demi-milliard qui va arriver, il faut bien comprendre que la Chine a un excès de capacité de production, hein, massif dans tous ces secteurs-là, et que les marchés occidentaux se sont fermés progressivement et qu'il restait donc à la Chine une seule zone d'expansion qui sont les grands marchés émergents. Et les grands marchés émergents, il n'y en a pas beaucoup. Il s'agit d'une part de l'Inde et d'autre part de l'Afrique. Et dès lors que, alors en Afrique c'est pour l'instant incertain, mais en ce qui concerne l'Inde, il est clair désormais que l'Inde est rentrée dans une guerre économique qui n'en porte pas le nom, mais avec la Chine, et qu'elle va se doter de tous les moyens possibles désormais pour se passer du Made in China. Et ça veut dire en gros 1,5 milliard de consommateurs potentiels pour la Chine qui vont désormais tourner le dos. Les scènes de rue qu'on a vues, de ces immenses écrans Made in China cassés dans les rues, de ces ordinateurs, des smartphones écrasés, etc., sont évidemment des images très très fortes.
Philippe Imbert, l'Inde a longtemps été un allié des États-Unis dans la bataille contre Huawei, puisque pendant longtemps, est en train de devenir ou pas un allié des États-Unis dans la bataille contre Huawei. Elle a longtemps été un obstacle. Il y a encore un an, elle n'était pas prête à bannir Huawei alors que les États-Unis le lui avaient plus ou moins demandé. Mais ces dernières semaines, Facebook, Google ont investi des milliards de dollars dans GIO, c'est le géant des télécoms du milliardaire Mukesh Ambani. Est-ce que là, pour ce qui concerne le marché des smartphones, le chinois Huawei a du souci à se faire?
Oui, on a constaté que ces dernières semaines, la prise de conscience des grands GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Intel, que le marché indien était le très grand marché émergent potentiel. Le marché indien est un marché déjà très connecté. Il y a plus de 500 millions d'Indiens qui sont connectés à Internet, et pratiquement tout le monde, il y a au moins 1 milliard de téléphones portables en Inde. Donc, c'est une société déjà largement connectée. Il y a des acteurs indiens très importants, notamment la branche numérique du groupe Reliance, que vous avez cité, de Mukesh Ambani, qui s'appelle GIO, Google vient de prendre une participation aux côtés de Facebook et d'Intel. Et GIO a 2/3 des abonnés 4G en Inde, qui se répand à toute allure. Donc effectivement, les grands acteurs américains sont présents et ont compris qu'ils allaient pouvoir remplacer en quelque sorte, en tout cas concurrencer, ce que avait fait, entrepris de faire, la Chine dans le même domaine. Donc il y a là un terrain de lutte extrêmement important, puisque en plus, comme je le disais tout à l'heure, la cybersécurité est un élément capital maintenant dans les politiques nationales.
Jean-Joseph Boileau, qu'est-ce que l'Inde peut aujourd'hui proposer aux investisseurs étrangers que la Chine n'a pas ou n'a plus?
C'est là où je pense qu'il faut bien comprendre que la crise du Covid-19 est un tournant. Ce que l'Inde pouvait proposer il y a donc quelques années, c'était ce que Philippe Imbert effectivement met en avant, c'est-à-dire cette potentiel, on va dire, de marché considérable. Le problème est que d'une part, nous avons cette montée du nationalisme fondamentaliste et donc d'une démocratie extrêmement déstabilisée aujourd'hui, de sorte que en Europe, beaucoup de voix se font entendre maintenant pour demander, et ça a été le cas pour le président Macron d'ailleurs, des comptes aux Européens qui collaborent avec ce régime. D'autre part, le fameux marché indien dont on s'attendait qu'il croise de 10% par an et qu'il remplace en réalité le moteur chinois, eh bien ce moteur indien ne cesse de tousser et la croissance en réalité est totalement retombée depuis 2-3 ans.
Mais c'est très nouveau.
C'est totalement nouveau et je pense en toute sincérité que c'est durable. C'est-à-dire que le post-Covid-19, c'est pas un petit accident qui va intervenir et puis tout repart comme avant. Il y a aujourd'hui une question de fond sur les perspectives économiques de l'Inde, c'est-à-dire sa capacité à retrouver un moteur interne. Et la raison est assez simple, c'est que vous ne pouvez pas avoir un pays qui est en guerre dans les faits sociales, civiles, idéologiques, et d'un autre côté, des entrepreneurs qui ont confiance dans l'avenir, des consommateurs qui ont confiance dans l'avenir. Non, je suis très inquiet là-dessus, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs européens qui avaient des visées sur l'Inde, et je participais à leurs travaux de prospection sur le marché indien, sont désormais dans une attitude, dans une position extrêmement défensive. D'une certaine façon, l'Inde, et notamment Narendra Modi, oublie que le continent africain est juste en face de l'Europe, et que lui, il croit malgré tout encore, et qu'il le pèse, lui, plus d'1,5 milliard d'habitants, et à terme, 3 milliards d'habitants. Donc j'ai un tout petit peu peur que, tant que le régime indien reste aussi violent, anti-liberté, anti-démocratique, eh bien la panne économique ne continue de se faire et donc la perte d'attractivité de l'Inde. Et ce qui ne veut pas dire, bien sûr, la totalité de la perte du potentiel indien. Il y a une industrie pharmaceutique qui est dynamique, on parle de la découverte de 2 vaccins anti-Covid-19. Dans le domaine informatique, il y a bien sûr un certain nombre de points forts, mais enfin, les paradigmes changent complètement et là-dessus, l'Inde de Modi n'est pas une Inde innovante, et qui va être capable de remettre l'Inde sur les nouveaux paradigmes post-Covid-19.
Et Philippe Humbert, qu'est-ce qui, jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, a maintenu ces dernières années, donc la croissance indienne, à un rythme soutenu, alors même que celle de la Chine ralentissait?
Oui, il y a des moteurs dans cette économie indienne. J'en citerai 2. Il y a celui qui vient d'être dit, celui de l'industrie pharmaceutique, qui a des capacités de production énormes. Autant la capacité de recherche en Inde est faible parce que les budgets de recherche des grandes entreprises sont faibles, autant la capacité de production, l'Inde produit 90% des vaccins contre la rougeole, 65% du tétanos. Donc il y a, et on a découvert nous-mêmes en France, en Europe, la dépendance vis-à-vis des réactifs indiens, etc. Il y a de très grandes entreprises, Rambaxi, Matrix, Astra, etc. Donc ça, c'est un moteur. Il y a un autre moteur qui est celui de l'énergie, et en particulier de l'énergie renouvelable. J'ai travaillé pendant des années dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est un des succès, il n'y en a pas énormément dans le domaine industriel et énergétique de l'Inde, que la capacité d'énergie renouvelable a énormément cru. Il y a actuellement, par exemple, en capacité de production d'énergie solaire, 35 gigawatts installés. 1 gigawatt, c'est une tranche nucléaire. Donc, 35 gigawatts solaires, ça veut dire 35 tranches nucléaires. On voit donc que c'est énorme. Et il vient d'être inauguré un parc de 750 mégawatts, un seul parc, donc il y a une production d'une tranche nucléaire. 750 mégawatts, c'est quasiment une tranche nucléaire.
Et l'Inde se positionne aussi sur...
Donc il y a des domaines comme celui-là, énergie éolienne également,
énergie renouvelable,
biomasse, etc., qui sont des moteurs qui se développent vite, et ce sont des succès actuellement de l'économie indienne. Mais évidemment, ça ne suffit pas à faire tourner toute la mécanique d'un pays de 1 milliard 300 millions d'habitants.
À tel point que aujourd'hui, les fonds de pension, les fonds d'investissement considèrent comme rentables et intéressantes 5000 places d'investissement donc répertoriées en Inde, alors que les États-Unis n'en comptent que entre guillemets 3700. Mais vous n'y croyez tout de même pas, Jean-Joseph Boileau.
Pas du tout, et je reviens d'une longue mission de 2 mois en Inde pour vous dire que sur ces 5000 places d'investissement,
mieux que les chiffres.
Les fonds de pension, les fonds de pension sont nous ont habitués à ces phénomènes spéculatifs. Dans la réalité, les contraintes majeures de l'Inde que l'on connaît, qui sont traditionnelles en termes de logistique, en termes de qualité de l'habitat, etc. À cela s'est ajouté ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une chasse aux sorcières, des tensions croissantes sur la liberté de la presse, des journalistes enfermés.
L'ostracisation de la population musulmane, bien sûr.
Oui, mais plus largement de tous les ennemis, entre guillemets, des intellectuels enfermés. Une ONG qui vient aujourd'hui de se faire fermer parce qu'elle elle-même participait à une enquête d'utilité publique. Donc ces phénomènes-là font que les 5 000, on peut peut-être dire 10 000 d'ailleurs, hein, puisque c'est immense, là, 1,5 milliard d'habitants, c'est immense. Qu'est-ce que 5 000 places d'investissement dans une zone aussi importante sont en réalité de redoutables pièges, me semble-t-il, pour les investisseurs étrangers. J'en veux pour preuve la façon dont les hommes d'affaires qui sont en Inde nous rapportent aujourd'hui l'immense difficulté de continuer à travailler en Inde.
Alors pourquoi on ne laisse pas la Chine y investir en Inde, puisque la Chine elle a investi quand même 5,5 milliards de dollars entre 2015 et 2019. Or l'Inde semble plutôt fermer son marché à la Chine. Le ministère indien du commerce a durci les conditions d'accès à son pays pour les investissements directs depuis les pays directement voisins.
Bah, si vous voulez, vous avez cela, et je comprends tout à fait que d'un autre côté, Modi, qui connaît très bien le vieux traité de sciences politiques qui s'appelle Arthashastra, qui développe ce qu'on appelle un des 6 stratagèmes. Lorsque je suis en guerre avec un des voisins, il faut que je fasse la paix avec l'autre. Et c'est ça que Narendra Modi est allé chercher auprès des Européens. Le problème, c'est que pour faire la paix avec les Européens, il faudrait que le modèle à la fois politique et économique donne de l'appétence aux Européens. Et ce n'est pas le cas. À cause de ce que je vous ai dit sur le plan politique et sur le plan économique. L'industrie automobile, par exemple, où les Allemands avaient investi des sommes considérables, et c'est complètement effondré. Et on a aujourd'hui, il faut bien prendre conscience de l'impact du Covid-19, le nombre de pauvres qui étaient dans la misère extrême, hein, et qui étaient de l'ordre de 250 millions de personnes en Inde, a bondi de 25% de plus en l'espace de quelques mois, parce que la gestion de la crise du Covid-19 par l'équipe de Narendra Modi, qui ne s'intéresse qu'à l'idéologie et à la lutte contre les musulmans, a été effectivement totalement désastreuse. Donc vous avez tout d'un coup 50% de la population indienne qui est retombée dans en dessous du seuil de pauvreté. Ça ne vous fait pas un marché très dynamique, tout cela.
Philippe Imbert, l'un des courtisés aussi bien par les États-Unis et l'Union européenne, en dépit, vient de le dire Jean-Joseph Boileau, du malaise que provoque sa politique d'ostracisation de la population musulmane et plus généralement de tous les opposants. Ursula von der Leyen a parlé très récemment des droits de l'homme en Inde. Est-ce que c'est nouveau que les chefs d'État occidentaux qui cherchent à placer des billes et des pions, les pays qu'ils représentent en Inde, parlent explicitement de la façon dont Narendra Modi mène sa politique aujourd'hui?
Oui, je replacerais cela plutôt dans cette guerre froide qui s'intensifie entre États-Unis et Chine. Et de ce fait, cette hostilité, cette guerre froide, en quelque sorte, sert l'Inde par miroir. Plus la Chine devient agressive, forte, puissante, expansionniste, comme on le voit dans différents endroits comme Hong Kong, plus l'Inde, telle qu'elle est finalement, paraît finalement plus aimable, en guillemets. Donc il y a cet effet un peu repoussoir de la Chine actuellement. Alors on peut dire que c'est provisoire, c'est lié à un président américain. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est fait pour durer, qu'il y a une rivalité de puissance et de recherche de leadership mondial entre Chine et Inde. Et de ce fait, l'Inde, malgré effectivement ces questions internes liées à la politique vis-à-vis des musulmans que vous soulignez, bénéficie d'un certain crédit. Mais il est vrai que l'affaire du Cachemire, qui a un an, il y a 5 août 2019, le statut du Cachemire ex-État princier avait été révoqué.
L'autonomie du Cachemire indien, oui.
Malgré cela, on voit qu'il y a encore une sympathie, mais par effet de contraste, de miroir, un certain retour sur l'Inde. Mais avec toutes les difficultés qui viennent d'être évoquées. Et le fait que le Covid-19 assombrit évidemment énormément les perspectives, et surtout que cette carte que Modi a essayé de jouer, qui était du soft power, en disant « nous, on va bien s'en tirer du point de vue du Covid-19 », est en train de s'affadir complètement, puisque l'épidémie en fait progresse. Et même s'il y a à l'échelle de l'Inde 25 000 morts et 1 million de contaminés, ce qui est relativement faible.
Merci, monsieur.
On peut dire que l'épidémie se répand et que le soft power indien, de ce point de vue-là, n'a pas fait mieux qu'ailleurs.
Merci beaucoup, Philippe Imbert, et merci à vous, Jean-Joseph Boileau, d'avoir été avec nous. Jean-Joseph Boileau, je mentionne le titre de votre livre, L'économie de l'Inde, est paru à La Découverte en 2016. Merci d'avoir été avec nous. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Jules Crétois, Lucas Lazo, Alia Tovin et Léo Grillet, réalisée par Guillaume Baldi. À la prise de son, c'était Jérémy Kaufmann. On se retrouve demain dimanche, même heure. Tout de suite, c'est Les Idées Claires avec Nicolas Martin. Aujourd'hui, les jeux vidéo rendent-ils violents?